géopolitique par rapport aux États-Unis, une proximité avec l'anti-impérialisme d'un Hugo Chavez ou d'un Nicolas Maduro qui lui a succédé, et reposant sur une conception du développement national, développement industriel à travers la construction d'infrastructures, permettant l'exploitation des ressources naturelles non plus pour des multinationales étrangères, mais pour des multinationales nationales, basées en Amérique latine, ou bien pour des États. Et un projet un peu surprenant pour nous, parce qu'il repose sur une alliance de classes un peu singulière. Vous avez une partie du patronat et vous avez des grandes centrales syndicales avec des hauts fonctionnaires. Et pour comprendre la genèse de cette alliance, il faut mesurer qu'au Brésil, vous n'avez pas de Laurence Parisot.
C'est dommage pour eux, ça.
C'est très dommage. Et exactement, ils s'en plaignent probablement beaucoup. Ce que vous avez à la place, ce sont des organisations sectorielles qui rassemblent le patronat du textile, le patronat de la banque, par État et ensuite au niveau fédéral. La conclusion de ça, c'est que vous n'avez pas de structure qui formalise un point de vue patronal unique. Donc vous avez des intérêts qui sont assez fragmentés. Et une partie du patronat industriel, eh bien aujourd'hui, est tout à fait protectionniste. Ils souhaitent être protégés contre les importations chinoises qui leur font de l'ombre. Ils sont assez intéressés par des augmentations de salaire dans le pays, puisqu'évidemment, ça permet aux gens de consommer les produits qu'eux produisent. Et ils sont intéressés par une baisse des taux d'intérêt qui permettent des investissements, alors que du côté de la finance, on préfère les taux d'intérêt qui permettent de gagner beaucoup d'argent sans trop faire grand-chose.
En dividendes.
Exactement. Alors, ce qu'on observe, eh bien, ce sont des passerelles entre ces différents projets. Parce qu'évidemment, j'ai décrit trois pôles, mais les choses ne sont pas aussi figées. Elles évoluent, il y a des alliances plus ou moins momentanées, plus ou moins structurelles, plus ou moins opportunistes. Et pas uniquement parce que les uns ou les autres trahissent. Parce qu'à un moment donné, il est possible eh bien, de militer pour une baisse des taux d'intérêt. C'est très important pour les travailleurs brésiliens, aux côtés de syndicats, d'organisations patronales. Mais il existe aussi, évidemment, des passerelles entre le projet, disons, développementiste, promu par le Brésil, et le projet libre-échangiste. Il existe d'autant plus qu'au bout d'un moment, le patronat brésilien, qui avait milité pour une augmentation des salaires, commence à se dire que, finalement, les salaires brésiliens ont atteint un niveau satisfaisant et qu'il faudrait s'arrêter. À tel point qu'aujourd'hui, ils envisagent de délocaliser une partie de leur production. Et là, je termine mon papier par cette observation qui, à mon avis, caractérise les contradictions de ce qu'on observe dans ce projet d'intégration promu par le Brésil. Récemment, on a interrogé un des plus importants hauts fonctionnaires brésiliens sur les réussites en termes d'intégration. Et il citait la construction d'une ligne à haute tension entre la centrale hydroélectrique d'Itaipu, c'est vraiment l'une des plus grandes du monde, construite au Paraguay, mais qui n'était pas reliée à la capitale paraguayenne. Toute l'électricité, elle est directement au Brésil. Et donc, il citait, grâce à la solidarité, nous avons permis à la capitale Asunción, capitale paraguayenne, de bénéficier de l'électricité qui lui permettra de se développer, de développer la production. Autre son de cloche ou autre analyse du côté du patronat brésilien, c'est « Ah, très bien, Asunción bénéficie désormais d'électricité, on va pouvoir y installer nos unités de production et bénéficier d'un coût de la main-d'œuvre 30% moins cher qu'au Brésil. » Et pour résumer, je dirais que la question que pose aujourd'hui l'intégration régionale nous renvoie à cette question du basculement du monde. On parle beaucoup aujourd'hui d'une évolution d'un monde unipolaire à un monde multipolaire.
Avec les briques et tout ça.
Exactement. Un monde où le Nord, ou les États-Unis, seraient moins en mesure de dominer le Sud. Et il est certain qu'en Amérique latine, pendant très longtemps, le Nord a exploité les ressources naturelles, les populations du Sud. Et il semble que l'une des choses que l'on observe, c'est l'émergence d'un capital situé au Sud, notamment au Brésil, qui semble tout à fait disposé à remplacer celui venu du Nord. Et la question qui se pose dans ces conditions, c'est dans quelle mesure une telle évolution va vraiment bénéficier aux populations de la région.
Suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad.